Maurice Bellay est professeur à Paris. Il est l'auteur de nombreux essais dans lesquels on retrouve sans cesse la question fondamentale : quelle est la voie que nous devons suivre pour nous arracher à notre détresse ? C'est le sujet qu'il aborde dans un remarquable ouvrage paru récemment aux éditions du Seuil.
Maurice Bellay, vous venez d'écrire un ouvrage, vous venez de publier un ouvrage aux éditions du Seuil qui s'appelle « La voie ». Un ouvrage assez difficile d'ailleurs. Je voudrais vous demander, d'où venez-vous et où allez-vous ?
D'où je viens et où je vais, ce sont des questions
énormes,
extrêmes. Je vais commencer par la deuxième, peut-être.
Peut-être, oui, si vous voulez.
En un sens, je ne sais pas où je vais. Et je crois que il faut apprendre à marcher sans savoir où on va. C'est-à-dire, sans pouvoir programmer ce que sera l'avenir, sans être maître de ce qui va venir et de ce qu'on fera. D'un autre côté, je ne suis pas tout à fait sans savoir où je vais, j'espère. C'est-à-dire, je ne crois pas être simplement...
Quelqu'un qui marche en rond.
Quelqu'un qui marche en rond. En tout cas, je l'espère. Ce vers quoi je vais, enfin, j'espère aller... C'est vers quelque chose qui, en un sens, reprendrait ce que j'ai déjà connu, ce que j'ai vécu, mais en un sens aussi à neuf, après avoir traversé ce dont mes livres témoignent d'une certaine manière. Donc, à nouveau. Et d'où je viens ? Je pourrais dire que je viens de la terre traditionnelle, chrétienne en particulier. Je viens aussi, est-ce que je peux dire que je viens de là ? Ben, je suis passé tout de même par tout un moment de travail philosophique. Je viens aussi, je crois que je peux dire ça, de ce qui s'appelle psychanalyse. Enfin, je connais un peu ça. Et je crois que ces trois références-là sont très fortes pour moi.
Vous avez vous-même été psychanalysé ?
C'est la question tout à fait indiscrète. Disons que j'ai tâté de cette chose-là.
On a dit de vous, Maurice Bellay, que vous saviez tout ce que Nietzsche sait et quelque chose de plus.
Qu'est-ce qui a osé dire ça ? Ah,
c'est Jean Sullivan qui a dit ça de vous.
Ah, Jean Sullivan.
Et vous ne m'avez pas parlé de Nietzsche. Pourtant, il est important dans votre pensée.
J'ai parlé de philosophie.
Oui.
Et parmi les philosophes que j'ai lus et qui m'ont impressionné, il y a entre autres Nietzsche. Mais je ne me sens pas du tout nietzschéen, par exemple. Enfin, je ne me sens pas du tout disciple de Nietzsche. Comment dire ? Simplement, j'ai moi-même constaté, et puis la réflexion de Sullivan va dans le même sens, qu'il y avait dans ma façon de penser ou d'aborder les choses une espèce de fraternité, au moins lointaine, avec Nietzsche.
Fraternité, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Expliquez-moi.
Ah, ben que...
Quelle est la parenté ?
J'ai le sentiment que, par exemple, Nietzsche, de famille chrétienne, protestante, et jusqu'au bout, enfin, quand même, dans un rapport extrêmement ambigu et difficile avec le christianisme, enfin, la dernière lettre au bord de la folie est signée Dionysos ou le crucifié. Nietzsche a été, à sa façon, je dis la phrase qui m'est venue à l'esprit, mortellement confronté avec ce que j'appelle le Dieu pervers. Le Dieu du christianisme chez Nietzsche est le Dieu qui est meurtrier, enfin, je crois. Enfin, c'est au moins une des lectures possibles de Nietzsche. Et il est certain que pour moi-même, c'est une question très importante, à la fois parce que je l'ai rencontré à vif chez pas mal de gens, enfin, très durement, et puis parce que moi-même, j'ai eu à me confronter à ça.
Qu'est-ce que vous appelez le Dieu pervers ? C'est le titre d'un de vos ouvrages,
oui,
d'ailleurs.
Ça a été dit merveilleusement par une femme que je connais, qui m'a écrit un jour. Il y a dans les religions païennes des dieux cruels, mais l'Église a réussi ce tour de force de mettre le dieu cruel dans la peau d'un dieu d'amour. Je ne reprends pas cette accusation comme ça, globalement, à mon compte. C'est, L'Église, il faudrait voir ce qu'on appelle l'Église. Mais je crois qu'il s'est passé dans le christianisme, dans certaines zones chrétiennes, un processus assez terrible. C'est-à-dire que sous une religion qui se présente comme une religion d'amour, ce qui s'est véhiculé, et au nom de Dieu, c'est la cruauté. Et comme c'est au nom de Dieu, et au nom du Dieu d'amour, on ne peut pas savoir que c'est la cruauté. Et c'est donc non seulement le cruel, mais le menteur. Et là où ça prend tout son sel, c'est que c'est la définition de Satan dans l'évangile de Jean. C'est-à-dire qu'il y a un processus inconscient, caché, qui a pu se produire dans le christianisme. Je ne dis pas que c'est l'Église ou le christianisme, c'est faux.
Ce sont des chrétiens, disons.
Oui, des chrétiens.
Des chrétiens, quand même, comme nous le sommes tous. Ce ne sont pas simplement les autres, peut-être. C'est peut-être aussi un peu...
Ah oui, 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 bien sûr. Bien sûr, bien sûr.
Comme si nous avions besoin d'un Dieu cruel.
Alors ça, c'est beaucoup dire. Ce à quoi j'ai été confronté par des gens qui viennent me voir, qui me parlent, qui me racontent leur vie, leurs histoires, leurs difficultés, c'est un Dieu cruel et menteur dont on a été initialement victime. C'est-à-dire qu'il n'est pas sûr que les gens aient, par je ne sais quelle aberration plus ou moins consentie, préféré ça. Ils se sont trouvés dans un christianisme qui véhiculait cette peste.
D'où cela vient-il? Est-ce que vous avez fait l'analyse historique?
Alors, l'analyse, comme vous dites, bien, on peut remonter historiquement, et historiquement, c'est très troublant parce qu'on ne sait pas très bien où ça commence. Ça peut commencer plusieurs fois. Il y a des datations possibles. Et c'est même plus subtil que ça parce que ce dont on peut repérer l'origine historique, peut-être, je ne suis pas historien, hein, mais peut-être c'est de ce qui a permis que ça apparaisse, c'est-à-dire certaines usures du système religieux, certaines compromissions de l'appareil d'Église avec certains pouvoirs politiques ou certaines habitudes culturelles, etc., etc., qui font que le tissu chrétien n'est plus protégé contre des processus aussi destructeurs. Mais l'analyse historique, jusqu'où elle va? Enfin, le sentiment que j'ai eu, c'est qu'en ultime instance, on ne peut pas toucher l'origine. S'il fallait nommer l'origine, on retrouverait le vieux langage, on dirait que c'est Satan. Mais c'est-à-dire ce qui n'entre pas dans la lumière.
Je disais, par exemple, comme René Girard, que c'est une théologie qui commence assez tôt, même dans l'Épître aux Hébreux, qui est le véhicule d'un vieux fond de conception sacrificielle de Dieu, d'un Dieu qui demande justice, d'un Dieu vengeur, qui ne peut être satisfait que par le sacrifice de son Fils.
Oui, alors, je ne suis pas tout à fait d'accord.
Je simplifie
avec
un peu la
position.
De Girard.
Enfin, c'est tout un sujet, ça, Girard. Hein?
Non, ce n'est pas sur Girard que vous lancez.
Mais
essayez de comprendre ce que vous dites quand vous dites
le propre du Nouveau Testament, si j'y ai compris quelque chose, c'est qu'il reprend bien sûr l'Ancien, et qu'avec l'Ancien, il reprend assez largement ce qui peut s'appeler le fond religieux de l'humanité, mais qu'il y opère une certaine transformation, une transformation qui, je crois, est tout à fait radicale et extrême. Prenons par exemple la question du sacrifice, n'est-ce pas? On pourrait l'éclairer en évoquant le mot de Jésus à Philippe, n'est-ce pas, qui lui dit « Montre-nous le Père, qui m'a vu a vu le Père ». C'est-à-dire que l'extrême paradoxe, c'est que ce qui nous révèle ce qu'est le Père, c'est Jésus lui-même acceptant de mourir et de mourir de la façon qu'on sait, plutôt que de défaillir de l'attitude qui est la sienne, ce que j'appelle dans la voie la haute tendresse, et qu'il tient jusqu'au bout. C'est donc là qu'on connaît le Père, et non pas en imaginant une espèce de vengeur qui voudrait tuer son fils pour faire payer à l'humanité la dette infinie, etc. Mais il est vrai aussi que c'est par rapport à ces images-là que l'humanité traîne, n'est-ce pas, et pas seulement dans le judéo-christianisme, de la chute initiale, de la culpabilité infinie, de la dette, etc., etc. C'est dans ces images-là que s'exprime le message de l'Évangile. Autrement dit, je crois que la tentation de beaucoup de gens aujourd'hui, à mon avis, c'est une tentation et une faiblesse. C'est de se dire, oh, tout ça, c'est contaminé ou même c'est pourri. Il faut larguer tout ça, tous ces thèmes, par exemple, du sacrifice.
C'est ce que dit Girard.
C'est ce que dit Girard. mais que la question la plus profonde, c'est d'arriver à transformer ces thèmes-là qui tiennent au plus profond de l'humanité.
Qui tiennent au plus profond.
Non, je crois,
C'est-à-dire que l'homme religieux, finalement, c'est un homme qui ne peut concevoir le sacré que dans ce rapport de, que l'on dirait de cruauté avec, avec Dieu.
Mais enfin...
De justification perpétuelle.
Ben, le sacrifice du Christ, en un sens, c'est vrai que c'est pour mettre fin au sacrifice. Et c'est le côté vrai de la thèse de Girard. Et c'est pour mettre fin à la tâche infinie de l'humanité d'acquitter la dette infinie. Bon. Mais ça se situe à l'intérieur même de cette difficulté d'être homme qui est relative à la chute, à la dette, etc. Je ne sais pas comment vous dire ça. Je voudrais prendre un autre exemple qui serait peut-être plus facile, plus éclairant. Prenez le cas du temple, par exemple. Bon, c'est une grande image, et c'est une image de tout l'archaïque de l'humanité, enfin, très largement. Le temple, le lieu sacré, le lieu du Dieu, le lieu de la divinité, etc. Notre mentalité assez fréquente, c'est de dire plus de temple. Ça n'a pas de sens. Pas de
temple. Ça ne veut plus rien dire pour nous modernes.
Dans l'Évangile, il est dit le temple, c'est le corps du Christ. Et si on comprend ça bien, ça veut dire, et c'est d'ailleurs dit dans le Nouveau Testament aussi, le temple c'est nos corps. Parce que s'il n'y a plus de temple du tout, les temples c'est les banques. Vous comprenez ce que je veux dire? S'il n'y a plus de sacrifice du tout, le sacrifice c'est la guerre de 14-18. Ça fait quand même quelques millions de morts. Et si on regarde bien, d'ailleurs ça Girard le dirait aussi.
Oui. Mais...
Je crois, si vous voulez, qu'on ne se débarrasse... On peut se débarrasser des structures religieuses, de certaines structures religieuses, etc. Mais l'enjeu qu'il y a là-dedans, l'enjeu concerne la possibilité pour l'être humain de venir à la vie. Et je crois dans le judaïsme, dans le christianisme, l'enjeu c'est venir à la vie de telle façon que la vie ne soit pas pour la mort. C'est pour ça d'ailleurs que c'est tellement dangereux. Parce que si jamais ça déraille, c'est pire que tout.
Et c'est là qu'on tombe dans la perversion.
C'est ça. Il y a un vieux dicton latin, n'est-ce pas, corruption optimi pessima.
La corruption des choses les meilleures et la
oui,
pire.
C'est ça. La pire corruption, c'est du meilleur.
Oui.
Si vous dites, par exemple, que la vérité de l'être homme, c'est ce que j'ai appelé haute tendresse, pour ne pas employer le mot charité, qui est devenu justement à peu près inutilisable.
Un mot vide.
Oui, ou alors il faut être un très grand poète pour le restaurer au sein d'un texte qui l'exauce, mais sinon, charité, c'est rien. Si on dit que la vérité de l'homme, c'est ça, on ouvre un risque qui est très grand, plus grand que si on dit simplement, la vérité de la vie humaine, c'est de se débrouiller dans l'existence, en tâchant que ce ne soit pas trop moche, et en n'étant pas trop moche non plus vis-à-vis des autres. Si on dit, mais non, la vérité de la vie, c'est que tout en vous devienne donation de vie pour l'autre. On dit quelque chose qui peut devenir totalement monstrueux, parce que si c'est faux, c'est pire que tout, vaut mieux être des gens honnêtement égoïstes. Vous voyez ce que je veux dire?
Mais qu'est-ce que ça veut dire à ce moment-là? Enfin, si je comprends bien, vous essayez de me donner une définition de la religion actuellement. Du fait que l'homme est nécessairement un être religieux, un être pour le sacré.
Mais alors, vous savez, tout le langage qui parle de ça est compromis. Si on dit religion ou religieux, pour nous, occidentaux, modernes, ça évoque ce secteur des choses humaines, là-bas, qui s'occupe de Dieu et des choses pieuses. Mais l'enjeu de la religion, tel que je l'évoquais tout à l'heure, c'est la venue de l'être homme à son humanité. Et alors, on dit, oui, mais est-ce que ça implique Dieu? Mais il faudrait aussi voir ce qu'on met sous le mot Dieu. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est parti dans cette direction-là, par exemple, à propos du Dieu pervers, tout demande à être regardé à nouveau.
C'est ça, c'est que notre langage, finalement, est continuellement piégé.
Oui, c'est devenu. Mais en particulier, le langage dit religieux, c'est à un degré de gravité. Je crois qu'on n'arrive pas à l'imaginer, je n'arrive pas à imaginer à quel point c'est devenu un langage malheureux et malade dans... le monde occidental,
mais moderne. Mais justement, à quoi tient cette maladie? Est-ce qu'elle tient à nous, chrétiens, qui avons mal usé ce langage, ou si cette maladie ne tient pas finalement à l'essence même de cette pensée chrétienne. Alors ça, c'est peut-être très scandaleux ce que je dis
non,
là, mais c'est quand même la question qu'il faut se poser.
D'ailleurs, dans le livre auquel vous faites
le Dieu pervers,
tout à l'heure, il y a précisément ce double niveau de mise en cause. Le premier niveau de mise en cause consiste à dire
ce qu'on a fait du christianisme.
Ce qu'on a fait du christianisme. Mais le deuxième niveau, c'est le christianisme.
C'est ça. Avec en particulier, vous le dites vous-même dans le Dieu pervers, cet idéal de perfection.
Oui.
Et cet idéal de perfection, soyez parfait comme votre Père céleste est parfait, mais en même temps, n'est-ce pas, affirmant continuellement que l'homme est pécheur.
Oui, mais qu'est-ce que c'est que la perfection ?
Mais c'est ça, c'est ce que je
veux dire. Je pense que la perfection au sens évangélique, il me semble, enfin je ne pense pas trop verser dans le contresens, c'est l'accomplissement, le mûrissement, c'est le fruit, la perfection. Si vous êtes parfait, ça veut dire que vous êtes venu à votre maturité et que vous donnez le fruit. Et le fruit, c'est la vie. Celui qui est parfait, c'est celui qui est tel que près de lui, la vie vous vient. Tandis que l'image de perfection qui a été véhiculée par un certain système religieux qui n'est pas originellement chrétien, hein, c'est la perfection, c'est d'être conforme à l'image. Vous avez devant vous la photo du saint. Et il faut que vous rentriez dans la photo.
Un modèle préfabriqué.
Oui. Et alors, par-dessus le marché, il arrive que ce modèle préfabriqué devienne terriblement narcissique. C'est-à-dire quand...
Une projection de soi, finalement. D'un soi idéal, d'un moi idéal.
Alors, la recherche de la perfection devient la tâche infinie de rejoindre l'image qu'on projette de soi, faute de quoi on est pécheur, c'est-à-dire privé de l'amour de Dieu. Et même... Ça a fonctionné pour certains gens de telle façon qu'il fallait être parfait d'abord et qu'ensuite Dieu se mettrait à nous aimer. Ça, c'est vraiment le terrain glissant, ça rend la vie impossible. Tandis que l'autre chemin, qui je crois est beaucoup plus évangélique, c'est Dieu est d'abord le donateur, c'est-à-dire la vie m'est un don. Et si la vie m'est suffisamment un don, elle devient en moi donatrice. Et par conséquent, ce qui est premier... Finalement, on joint la banalité du christianisme. Ce qui est premier, c'est la charité, c'est la relation. La relation comme donatrice. Et ce qui est premier, ce n'est pas du tout l'infini tournoiement sur soi-même en vue d'être impeccable.
Maurice Bellet, j'ai presque envie de vous dire que ce que vous dites est très beau. Enfin, je vous le dis, c'est très beau. C'est très tendre. Mais je me dis, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le christianisme que j'ai appris, moi, quand j'étais enfant ? Est-ce que moi, j'identifie comme un christianisme ? Est-ce que ce n'est pas finalement une construction ? Est-ce que ce n'est pas Maurice Bellet, philosophe, penseur, qui me dit un discours qu'il qualifie de chrétien ? C'est la première question que je voudrais poser. La deuxième question que je voudrais poser, c'est que dans la mesure où cela est vraiment le christianisme que vous me dites, comment puis-je arriver pour moi-même à un tel discours ? Parce que je vois bien qu'il y a le discours que vous avez fait suppose toute une démarche de purification. Et cette démarche-là, je ne peux pas non plus accepter qu'elle me vienne de vous seulement. Il faut que je l'entreprenne pour
oui,
moi, et je n'ai pas vos moyens.
Oh ! Alors, réponse à la première question qui était... Attendez, est-ce que ça n'est pas théorique,
oui.
etc.
Et il y a une théorie qui est finalement Bellet... couvert, enfin, bon. En prenant les chasubles et les aubes pour dire, voilà, c'est ça le christianisme.
Alors, il y a deux choses que je voudrais dire par rapport à ça. D'abord, que le discours que je tiens est second. C'est les propos plus ou moins heureux, plus ou moins réussis, de quelqu'un qui essaye d'être comme le porte-parole de quelque chose qui est beaucoup plus vaste. Ce qui est premier, c'est l'expérience. Pour toute la mienne, hein, toute petite. Mais l'expérience d'un certain nombre de gens que j'ai entendu. Il y a des gens qui font ce trajet-là. Hein? Et c'est ça qui est premier. Et d'autre part, est-ce que... Alors, c'est le vrai christianisme...
Des gens qui sont des gens simples ou des théologiens, parce que vous êtes
tout à fait.
Un professeur
non, ça n'a rien
théologie.
À voir. Ça n'a rien,
rien
à voir. Non. Ça ne relève absolument pas d'un niveau intellectuel, de culture, etc. etc. Hein? Je connais des gens qui sont ce qu'on appelle des gens simples et qui ont fait un chemin extraordinaire jusque-là. Ce n'est pas d'ordre intellectuel. Je connais des gens dont la manière dont la religion leur avait été enseignée, dont ils avaient perçu le christianisme, s'est décomposée, enfin, complètement, et qui ont passé des moments quelquefois extrêmement durs, des moments tout à fait désertiques, avec le sentiment qu'il n'y avait plus rien dans l'ordre de la foi, et dans la mesure où la foi était pour eux assez vitale, et quelquefois il n'y avait plus rien du tout, et qui ont fini, à force de patience et de courage, j'ose pas dire le mot foi parce que ils ne le savaient pas eux-mêmes, à joindre cet espace-là que j'évoque. Et c'est à cause d'eux que j'écris, c'est pas parce que j'ai des idées. Et d'ailleurs, les gens qui lisent ce que j'écris, ceux qui le lisent vraiment, le lisent à partir d'endroits comme ça, c'est-à-dire à partir de ce lieu d'épreuve où, alors tout d'un coup, des choses qu'on croyait savoir et qu'on avait même appliquées et enseignées aux autres changent complètement de sens. Par exemple, qu'il faut se quitter soi-même. Se quitter soi-même, c'est pas justement se rendre malade avec l'image de perfection. C'est quelquefois abandonner cet idéal lui-même et accepter d'être tout à fait démuni et de marcher dans un désert. Mais ça n'est pas non plus pour pousser les gens au désert. Hein. Vous savez, comment dire ? Peut-être que je sors un peu de la question,
non, non, non.
Ça ne fait rien. Le fond du fond, hein, c'est que les êtres humains puissent vivre. Que chaque être humain, homme ou femme, puisse vivre. Et vivre tel qu'il est. Ça ne veut pas dire ratifier tout ce qu'il est en fait, enfin s'enfermer dans ce qu'il est, se clore à l'endroit où il est, la vie s'est avancée. Hein. Mais qu'il puisse s'accepter absolument. Et s'acceptant absolument comme il est, voir s'ouvrir devant lui un chemin qui sera peut-être déconcertant, qui sera peut-être dur, qui la mettra peut-être quelquefois dans ce qu'il vivra comme le désespoir, mais qui reste un chemin ouvert devant. Mais oui, et on pourrait dire qu'il n'y a rien à ajouter.
Hein? Oui, mais ça m'apparaît très, très ambigu.
Ah.
Très franchement, je vous le dis carrément. Vivre, ça veut dire quoi ? Pour moi, c'est un grand mot, mais pour certains, vivre, ça veut dire, par exemple, à l'heure où les gens nous écoutent, souvent, ça peut vouloir dire prendre un bon repas, ça peut vouloir dire se retrouver dans une boîte de nuit, ça peut vouloir dire faire des voyages, etc. C'est très ambigu. Et alors, à ce moment-là, votre Dieu, si Dieu est, risque fort d'être un Dieu panthéiste, d'être le Dieu
de tout le monde et tout ce qu'on veut.
Non.
Là, vous touchez une difficulté très grande du langage. C'est que les mots fondamentaux, ce n'est pas des mots compliqués, les mots fondamentaux. C'est des mots comme vie et mort, naissance, amour, respiration, marche, etc.
Oui.
C'est ça, les mots fondamentaux. Mais leur sens ne se connaît que d'y être et d'y avancer. Prenez le cas du mot amour. Enfin, c'est un cas hyper exemplaire. Hein? Le mot amour dit d'une certaine façon par quelqu'un qui a vécu un certain chemin, est un mot absolu, n'est-ce pas ? Et je pense que quand l'auteur de la première de Jean écrit « Dieu est amour », n'est-ce pas, « Théos agapé », il dit quelque chose de fulgurant. Mais ça ne peut être dit, ça ne peut être entendu que si vous y êtes, si vous prenez ça comme le langage qui peut circuler n'importe où, du moment qu'on a la formule, on a le sens, ça devient... Il n'y a qu'un mot grossier pour dire ce que ça devient. Hein? Et ça, c'est une chose terrible parce que nous sommes habitués, je pense, à un langage que nous imaginons comme univoque. Hein? On a la formule, on a la chose dedans. C'est pas vrai. Pour pouvoir arriver à dire, par exemple, que Dieu est amour, il faut sans doute 15 ans de silence, enfin. Et d'un silence qui descend jusqu'au fond de ce qu'est l'être homme. Je crois qu'on a terriblement, et voilà, effectivement, les habitudes chrétiennes y ont contribué, terriblement galvaudé le langage et les mots. Et il y a même, enfin moi j'ai ressenti, je connais des gens qui le ressentent jusqu'à la nausée, quelquefois dans certains milieux chrétiens, enfin une impudeur qui n'est pas supportable.
Mais alors à ce moment-là, le problème devient comment se décaper, si vous me permettez. Là.
C'est pas un problème. Parce qu'un problème, c'est quelque chose qu'on met devant.
Oui.
Hein,
mais
se
comment
disant,
se décaper, comment trouver tout à coup cette vérité, cette authenticité? On n'y arrive pas du jour au lendemain.
J'ai envie de vous donner une réponse qui n'est peut-être pas la bonne, mais je la donne tout de même. la nécessité. C'est quand on ne peut plus faire autrement. La critique sérieuse, profonde de ces choses-là, c'est quand quelqu'un ne peut plus faire autrement parce que c'est une affaire de vie ou de mort. Et à ce moment-là, les mots « vie » et « mort » commencent à peser. Enfin,
mais est-ce que nous ne sommes pas fondamentalement, de part en part, être sexués? Et est-ce que de part en part, ce n'est pas là que les choses finalement doivent se passer aussi?
C'est-à-dire que si vous faites comme si la sexualité n'existait pas ou ne comptait
pas... élément de...
ou si vous en faites un élément secondaire, ou réprimé, ou latéral, alors c'est le moment où elle devient tout, forcément. Hein, ça, c'est un processus bien connu. Ce dont vous ne voulez pas parler, ce dont vous voulez faire comme ça n'existe pas, ça va être tout puissant, puisque ça n'est plus intégré, ça n'est plus intégrable, c'est de l'ordre du non-dit, du refoulé, du tout ce que vous voulez. Enfin, hein. Et alors, il y a quelque chose comme ça qui a dû fonctionner, pas seulement dans le christianisme en Occident, et peut-être que ça a été pire encore dans d'autres milieux, mais enfin, qui a fonctionné assez sévèrement. Mais c'est pas un hasard si dans le livre sur le Dieu pervers, enfin, j'ai donné une importance particulière à la sexualité, parce que c'est aussi par ce biais-là, par les difficultés de cet ordre, que pour beaucoup de gens...
Les problèmes se posent.
Les problèmes se posent. Et bien au-delà de simplement la morale. Hein, c'est pas simplement la morale.
Maurice Bellet, je vous remercie.
Rappelons que Maurice Bellet a publié de nombreux livres importants, dont Le Dieu pervers, paru chez Declan Brouwer, étude étonnante sur les idées que nous nous faisons de Dieu et qui sont généralement bien éloignés du Dieu révélé. Le point critique consacré à cette période où le chrétien a l'impression de perdre la foi. La peur ou la foi, une analyse du prêtre et de son malaise grandissant dans notre société. Naissance de Dieu, une présentation neuve du christianisme où le Christ signifie la naissance de l'homme. Le sens actuel du christianisme, ses dimensions, ses implications et les illusions que parfois il suscite, et « Ceux qui perdent la foi », un ouvrage qui date un peu mais qui est toujours intéressant. Il est paru dans la collection « Christus » chez Declan Brouwer.